Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Sa voix est un sortilège. Il est LE chanteur absolu, hors norme, qui fascine depuis 30 ans autant les passionnés d'opéra que les amoureux de la chanson. Car oui, Roberto Alagna a fait de sa voix un passeport pour le monde entier qui lui a offert les scènes les plus prestigieuses ainsi que le public populaire. Roberto Alagna nous offre, en ce début d'année, et on en a besoin, un album qui ressemble à une Madeleine de Proust, avec des titres de la variété française, chers à son cœur. Ce disque a pour titre LE chanteur. Et justement, je reçois LE chanteur.
Europe 1.
Bienvenue dans cette émission, Roberto Alagna.
Merci, bonjour à tous.
Cher Roberto Alagna, la veille du premier confinement, vous chantiez Puccini sur la scène de l'Opéra de Vienne. Le lendemain, le monde entier se verrouille. Et vous qui passez votre vie dans les avions pour rallier les plus grandes scènes du monde, vous vous retrouvez donc confiné en famille dans votre maison de la région parisienne. Et votre agenda vole en éclats. Alors, pour garder le bonheur de chanter, eh bien vous vous lancez dans une aventure dont vous aviez envie, paraît-il, depuis un certain temps. Et une aventure que cette pause forcée rend soudain possible. Cette aventure, dans la lignée vraiment de vos hommages à la chanson sicilienne, napolitaine ou au répertoire de Mariano, eh bien c'est celle d'un album inattendu, mais alors parfaitement légitime. Hein.
Oui, c'est tout ça à fait. Oui, c'est ça. Donc on devait enregistrer un opéra, une intégrale d'opéra. Et donc c'était impossible, dû au confinement et à la distanciation. Et donc on m'a proposé, ma maison de disques m'a dit « Pourquoi tu ferais pas un piano-voix ?» Je me suis dit « Bon, c'est sympa, mais tout le monde le fait en ce moment, puisque c'est la seule possibilité. J'ai un projet depuis longtemps qui me tient à cœur, c'est ce projet de chanson française, d'hommage à la chanson française, la grande chanson française classique pour moi. » Et voilà, donc on m'a dit « Bon, bah ok. » Donc comme ça, j'avais besoin d'un petit groupe. C'est un groupe d'amis, hein, des musiciens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Bien sûr, Yvan Cassard, voilà. Et puis toute l'équipe. Et puis j'ai voulu aussi retrouver les sensations qu'on avait avant ce confinement, c'est-à-dire de se trouver ensemble, de la convivialité, la famille, les amis. Voilà. Et c'est un petit peu le reflet de tout ça, ce disque.
Parce que vous dites, effectivement, pendant le confinement, j'étais en manque d'émotion.
Oui, voilà. Tout à fait, parce que j'ai toujours été déjà dans une très grande famille, où on était tout le temps ensemble. Ensuite, depuis l'âge de 17 ans, je fais ce métier, et donc j'ai toujours été au contact du public. Et là, tout d'un coup, me retrouver à la maison, je n'avais vraiment pas l'habitude de ça, juste avec mon épouse, ma fille, et même ma première fille était en Normandie, donc on ne pouvait même pas se voir, ni avec les parents, ni avec personne, on avait peur de se contaminer. Et donc voilà, on est resté tout seul. Bon, ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. J'ai pu réfléchir à des tas de choses.
Comme par exemple, Roberto Alagna.
Comme le fait de j'avais toujours peur de me retrouver en dehors des scènes.
Oui.
Voilà, c'était un monde que je ne connaissais pas et j'avais un peu peur de la vie normale, entre guillemets. Et là, je me suis aperçu que la vie normale était fantastique. Elle était très belle d'aller faire ses courses, de faire son jardin, de cuisiner, de s'occuper des enfants, de la maison.
Vous n'avez pas fait que ça. Vous avez enrôlé tout le monde. Alors,
oui,
vous nous dites,
oui.
Pour cet album, effectivement, la famille, puisque vous chantez sur cet album avec votre femme, avec vos deux filles. Et puis, vous avez sollicité l'ami de toujours, le génial Yvan Cassard, qui travaille aussi bien avec Mylène Farmer que Céline Dion ou Nathalie Dessay. Donc, ça donne un album vraiment qui rend hommage en fait à ces titres vraiment du patrimoine de la chanson française qui sont chers à votre cœur. Mais concrètement, je voudrais savoir, vous l'avez enregistré comment cet album? Parce que je crois savoir que ça a été au cours de l'été,
oui.
Donc de façon très festive, mais dans des lieux peut-être où vous n'enregistriez pas d'ordinaire, comme par exemple La Fabrique.
Oui, c'était La Fabrique. J'avais fait quelques titres il y a quelques années dans l'album Robertissimo à La Fabrique, donc je connaissais l'endroit. Mais en fait, je voulais quelque chose de vraiment familial, presque comme si on était à la maison. Donc quand Sony a accepté le projet, je me suis mis à la guitare et j'ai commencé à adapter toutes ces chansons, à prévoir tous les arrangements. Ensuite j'ai appelé, une fois que tout était prêt, j'ai travaillé quasiment 15 jours.
Vous jour avez et nuit. Fait des pré-arrangements avant Yvan Cassard,
oui, oui, bien
qui
sûr,
est
bien
arrangeur.
Sûr, parce que je lui avais dit que c'était un projet particulier.
Ouais.
Donc j'avais tout en tête et je voulais raconter une histoire, mon histoire à travers ces titres. Et donc j'avais tout préparé, les tonalités, enfin tout ce que j'avais voulu, les coupures, les adaptations, etc. Ensuite, j'ai fait venir Yvan à la maison. Il est venu une journée et on a tout enregistré, des arrangements que j'avais préparés, de l'adaptation. Et ensuite, lui a réalisé avec moi le disque.
Mais alors, il faut parler des titres. Vous reprenez en fait des titres interprétés par Renaud, par Jacques Brel, Edith Piaf, Enrico Macias, Yves Montand. Mais l'album, lui, il ouvre sur une chanson moins connue de Serge Lama, Le Chanteur.
Oui, Le Chanteur. Parce que aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, souvent j'entends ça. Les gens qui me connaissent, bien sûr, m'appellent Roberto, mais ceux qui me reconnaissent mais qui ne connaissent pas mon nom me disent « Tiens, c'est le chanteur ». Et donc ça m'avait toujours marqué. Et comme au cabaret, moi je chantais souvent cette chanson que je trouve très belle.
Au cabaret, donc à vos débuts ?
Oui, oui, à mes débuts. Donc voilà, donc je chantais cette chanson. C'est une chanson qui est très belle et j'ai voulu faire un arrangement qui rappelle un peu mon disque sicilien. Voilà, donc il y a quelque chose, une part de moi dans ce disque. C'est une chanson qui va très bien à Serge Lama, hein, puisqu'il est comme ça, un peu histrion, un peu comédien, ambulant, comme ça, un peu... Voilà. Et là, j'avais besoin de ça aussi. Et j'ai appelé ce disque Le Chanteur, parce que je pense que c'était le titre qui me correspondait le mieux.
Alors, Roberto Alagna, on oppose toujours l'art lyrique à la chanson populaire, comme si aucun pont ne pouvait exister entre eux. Mais j'ai découvert, en lisant le livret très intéressant qui accompagne cet album, donc baptisé Le Chanteur, j'ai découvert que, par exemple, la chanson J'attendrai, qui a été créée par Rina Ketty, qui a été ensuite reprise par Dalida, et donc aujourd'hui par vous sur cet album, et ben cette chanson J'attendrai, elle a été inspirée par un air de l'opéra de Puccini, Madame Butterfly.
Madame Butterfly, c'est le passage à bouche fermée avec les chœurs, lorsque Butterfly attend justement son bien-aimé. Et voilà, et donc c'est pour ça que les premières mesures, je voulais absolument faire un petit rappel de ce titre à bouche fermée. Donc au départ, c'est moi qui démarre à bouche fermée avec la guitare, Rocky Gresset m'accompagne. Et voilà, et on démarre avec ce titre.
Le répertoire de cet album, si vous l'interprétez avec une sensibilité différente, bien sûr, c'est toujours avec votre voix de ténor. Or, il paraît que naturellement, tous les hommes sont presque barytons. Ténor, c'est une technique. Ténor, ce n'est pas un organe particulier qui donnerait une tessiture plus haute. C'est une technique, n'est-ce pas ?
En fait, c'est une technique pour arriver aux notes aiguës en pleine voix, c'est-à-dire en voix de poitrine. Puisque la
pas
voix
en
naturelle,
voix de fausset voilà, ou comme voix, les hauts de contre.
Voilà, la voix naturelle de l'homme, c'est la voix barytonale. Vous voyez, quand je parle avec vous, j'ai une voix plutôt barytonale.
Ouais.
Et donc, pour atteindre le si bémol, le si naturel, contrut, etc., il faut une sorte de turbo. Bon, c'est un peu technique, donc les gens ne peuvent
mais
ne
ça,
pas comprendre.
Mais c'est au niveau de la glotte que ça se joue, c'est ça ?
Il se passe quelque chose, mais c'est une étude à faire. Il y a une couverture de son, on appelle ça la couverture de son, mais il faut 20 ans avant de pouvoir la maîtriser totalement, donc d'études. Donc, c'est pas quelque chose de naturel, c'est
alors,
pas quelque chose d'inné.
Alors, s'il faut 20 ans pour pouvoir totalement maîtriser ça, être un vrai ténor, comment se fait-il que certains se révèlent ténor à 22, 23, 24
parce
ans ?
Parce qu'il y a un phénomène d'imitation. Aujourd'hui, on sait comment le faire. Mais dans la nature, ça n'existait pas. Donc avant de trouver le turbo, il fallait s'entraîner énormément. Aujourd'hui, on sait à peu près. Donc par imitation, on peut donner l'impression. Mais avant de maîtriser ces trois notes qui sont le mi, fa, sol, c'est les notes de passage qui font la soudure entre le médium.
Le baryton et le ténor.
Et voilà. Et il faut un travail constant. Et donc, au départ, vous pouvez le faire. Alors, c'est la nature qui le fait. Vous avez la jeunesse, l'énergie. Mais ça tient quelques années. Mais si vous voulez faire une grande carrière pendant 30 ans, il vaut mieux maîtriser ces trois notes.
Alors, en quelques mots, juste avant de faire une très très courte pause, Roberto Alagna, je voudrais savoir s'il est vrai que pour préserver cette voix prodigieuse qui est la vôtre et qui vous vaut d'être ovationnée dans le monde entier, vous devez éviter de rire aux éclats comme éviter de vous mettre en colère. Rire altère les cordes vocales, même si c'est très bon pour la santé.
C'est très bon pour la santé. En fait, c'est l'éclat de rire, puisque ça peut faire un claquage. Vous voyez, c'est comme quand vous éternuez aussi. Ça peut faire un claquage des cordes vocales. Il y a des tas de choses. Donc, il faut apprendre à contrôler, contrôler ses émotions, à contrôler tout ce qui a un rapport avec la voix. Même quand je parle avec vous, vous voyez, là, je parle, j'essaie de ne pas de faire d'éclat de voix. J'essaie toujours d'avoir une voix qui soit sur le souffle pour ne pas fatiguer la voix. Quand on parle énormément, quand on fait de la promotion, ça, c'est très nocif à la voix.
Oui, oui.
Puisque vous savez que la voix, les cordes vocales, à partir de 2 heures d'utilisation, commencent à souffrir. Voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile, il faut savoir placer sa voix.
Et quand on chante un opéra qui dure 4 ou 5 heures,
voilà, et puis,
comme ceux de Wagner.
Voilà, exactement. Et puis vous avez la préparation avant d'aller chanter l'opéra. Il faut encore une heure ou deux, donc vous voyez, ça peut faire des journées de 8 heures de chant. Il faut faire très attention. Et donc il faut pouvoir muscler ce muscle tout en le respectant et en le cajolant un petit peu.
J'ai 1000 questions à vous poser. Alors, on s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite Roberto Alagna.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Le nouvel album de Roberto Alagna a pour titre Le Chanteur. Roberto Alagna y interprète donc les titres du patrimoine de la chanson française les plus chers à son cœur. Alors, cher Roberto, votre histoire, elle est tellement romanesque qu'elle ressemble à un conte de fées qui démarrerait à Clichy-sous-Bois. Votre papa est maçon, votre maman couturière, et dans les années 60, eh bien, la famille Alagna vit en France un petit peu comme dans une salle d'attente en rêvant d'un retour hypothétique sur les terres siciliennes. Il paraît que votre maison était un garage aménagé, c'est ça ?
Oui, en fait, il y avait une maison, c'était un ami de mon père. Et il avait son garage, et à l'époque, il n'y avait pas encore d'HLM, il n'y avait pas d'endroit pour se loger. Et donc, cet ami a proposé à mon père son garage, et il lui a dit, si tu veux, toi qui es maçon et qui es doué de tes mains, tu peux essayer d'en faire une petite maison. Et mon père a fait deux chambres là-dedans, enfin, il a fait une chambre à coucher et une cuisine. Et voilà, donc je suis né là.
Et vous y êtes né ?
Oui, je suis né dans cette maison.
Incroyable. Alors, Sylvie Guillem, future étoile de l'Opéra de Paris, était votre voisine ?
Oui, c'était la voisine de ma grand-mère, en fait, la maison d'à côté. Et ouais, elle était à 3-4 maisons. Ouais.
Chez les Alagna, on chantait à tue-tête, tout le temps, ouais. Mais on ne chantait pas de l'opéra.
Si, de tout.
Si.
C'est-à-dire, du côté de ma mère, c'était surtout l'opéra. Voilà.
Ah.
Et du côté de mon père, c'était la chanson traditionnelle, la variété, la pop.
Ou la chanson napolitaine,
voilà,
sicilienne.
Ouais, ouais. Voilà, tout ce qui n'était pas opéra.
Tout ce qui n'était pas opéra. Mais bon, parfaitement complémentaire, donc,
oui,
entre le père
ouais.
et la mère. Alors, il paraît, Roberto Alagna, qu'un jour, en vacances, à Syracuse, vous avez poussé la voix dans une grotte bien connue, d'ailleurs, pour son acoustique, mm-hmm. une grotte qu'on appelle l'oreille de Dionysos.
Oui.
Et votre voix d'enfant s'est envolée et a résonné, comme votre voix de ténor aujourd'hui, sur les scènes d'opéra. Vous avez compris très tôt les pouvoirs, les sortilèges de la voix.
Oui, c'est même devenu une fixation. Et d'ailleurs, c'est dans mon disque, c'est pour ça qu'on n'a pas d'âme, pas d'âme. Cet air qui m'obsède aujourd'hui, c'est cette voix. En fait, de cet enfant, j'avais entendu cette voix qui m'avait fasciné, mais produit aussi une sorte de sensation que je n'ai plus jamais retrouvée. Et depuis...
Plus jamais.
Non, parce que je pense que c'est comme, quand, vous savez, quand vous êtes enfant, vous goûtez un fruit et on essaie de retrouver ce goût qu'on avait de l'enfance et on ne le retrouve jamais. Et c'est un peu ça. En fait, c'était peut-être cette voix de la perfection que j'avais entendue dans cette grotte qui avait une acoustique merveilleuse. Et donc, j'ai passé ma vie à courir derrière ce fantôme, cette voix fantôme, et que je n'ai plus jamais retrouvée.
Vous avez rechanté depuis avec votre voix
oui,
de ténor adulte dans cette grotte, l'oreille de Dionysos.
Vous savez, à chaque fois que j'allais à Syracuse, on me demandait de chanter dans cette grotte parce que justement, j'en avais tellement parlé. Alors, à chaque fois que j'y allais avec mes cousins, etc., je faisais toujours quelques vocalises dans cette grotte. Mais j'ai plus jamais retrouvé cette sensation qui était la sensation de la première fois, de l'enfance. Il y avait quelque chose de magique dans cette voix. Et c'est peut-être ça qui a allumé la flamme en moi.
Oui, hein. Oui. Alors, Roberto Alagna, un arrière-grand-père que vous n'avez pas connu, mm-hmm. Était ténor aux États-Unis et avait connu le grand Caruso, c'est
oui,
ça ?
Oui. Mais j'ai connu sa femme, qui était mon arrière-grand-mère, et elle, je l'ai connue jusqu'à l'âge de 20 ans, vous voyez, donc j'ai eu beaucoup de chance.
Alors, elle vous a parlé tout ce qu'avait
donc,
fait son,
son
mari sur les scènes. Il chantait sur des scènes d'opéra à New York ?
Il ne chantait pas sur les scènes d'opéra, il chantait dans des mariages, enfin des réunions mafieuses, enfin tous ces trucs-là. Et il chantait un peu pour tout le monde, et surtout pour payer la protection. Vous savez qu'il avait un magasin dans Little Italy, et il fallait payer une protection à la mafia. Et donc lui, comme il avait une belle voix, on lui demandait pas d'argent, mais on lui demandait d'aller chanter dans toutes ses réunions. il payait son tribut avec sa voix.
Bon, Roberto Alagna, depuis longtemps, votre légende vous précède. On sait que vous avez fait vos premières vocalises, non pas au conservatoire, mais dans le brouhaha d'une pizzeria. C'est sans doute d'ailleurs la plus cruelle école qui soit. On sait que votre timbre fabuleux et votre coffre ont été remarqués par un amoureux d'opéra, donc Raphaël Ruiz, qui a commencé à vous faire apprendre des rôles à l'oreille. On sait que, à votre retour du service militaire, vous remportez un concours, mais on refuse de vous donner une bourse parce que vous n'avez pas fait le conservatoire. Et on sait surtout qu'un beau jour de 1988, alors que Pavarotti dédicace ses disques à la FNAC, un copain qui vous accompagne lance comme ça à Pavarotti « Mon ami est un immense ténor ». Un an plus tard, Pavarotti vous choisit pour les éliminatoires de son concours en Europe et vous remportez la grande finale qui a lieu à Philadelphie. En fait, la toute première fois que vous mettez les pieds dans un opéra, c'est pour y chanter.
Oui. C'est assez incroyable. Maintenant, je m'aperçois que c'était quand même un parcours assez singulier. Mais c'était mon parcours, c'était formidable. J'ai eu de la chance quand même, parce que j'ai rencontré des gens qui étaient des personnes magnifiques. Quand on parle de Ruiz, c'était quelqu'un d'une autre époque, d'un autre monde. Il avait une passion, il était parti de Cuba, il avait abandonné ses parents, ses frères et sœurs, il ne les a plus jamais revus, il s'était enfui de Cuba, du régime totalitaire qui y régnait à l'époque.
Ouais.
Et donc, j'étais devenu un peu son fils. Il avait eu une vie extraordinaire, il avait connu Django Reinhardt, puisqu'il était contrebassiste. Mm-hmm. Il me disait, voilà, je me souviens, on se baladait dans Pigalle, et il me disait, voilà, là, il y avait ce cabaret, là, il y avait ci, il y avait ça. Et c'était fantastique de rencontrer un homme comme ça. Et je me souviens qu'il avait quand même une certaine rigueur, puisque même si on apprenait les rôles comme ça à l'oreille, mais le cours commençait toujours par une demi-heure de solfège obligatoire. On devait lire des notes et lire des notes, parce qu'il me disait, ça, il faudra que tu apprennes très rapidement les rôles.
Ouais.
Et donc, il avait cette hygiène de vie musicale qui était très importante et qui m'a servi énormément. Et ensuite, on se faisait plaisir et on chantait de tout, sans barrière. On se faisait plaisir et on se lançait dans tous les rôles, et ça, c'était formidable.
On retrouve tout de suite Roberto Alagna.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Le nouvel album de Roberto Alagna a pour titre Le Chanteur. C'est un hommage au patrimoine de la chanson française. Et Roberto Alagna est cet après-midi mon invité. Alors, cher Roberto, je reprends le fil de votre histoire qui est vraiment prodigieuse. En fait, lorsqu'en 1988, vous êtes entré à l'école de l'opéra, ben, vous étiez un curieux élève parce que, en fait, vous passiez déjà votre vie sur scène. Votre carrière avait réellement démarré alors que tous les autres élèves étaient en train de travailler des partitions et vocaliser.
Oui, en fait, c'est une histoire assez curieuse avec l'école de l'opéra, puisque quelques années auparavant, j'avais voulu rentrer à l'école de l'opéra. Et on m'avait refusé l'entrée puisque je ne pouvais pas faire le concours parce que je n'avais pas fait le conservatoire. Donc j'avais été très déçu et bon, je ne m'étais pas présenté. Et quelques années plus tard, c'est le ténor José Todaro qui m'a emmené à l'école de l'opéra. Il m'a dit, tiens, je vais te présenter à Michel Sénéchal, tu vas voir, et il va t'adorer, etc. Et donc je suis allé là-bas et j'ai fait une audition et ils m'ont pris sans concours.
Donc ça veut dire que votre audition a permis de pulvériser les règles.
Ben, voilà, c'était ça. Et donc quand on m'a dit, ah, on va te prendre à l'école de l'opéra, j'ai dit, mais moi, je n'ai plus envie de venir à l'école d'opéra puisque j'ai
c'est
démarré déjà, je suis en carrière déjà depuis 4-5 ans et donc je n'ai plus besoin de venir à l'opéra. Et ils m'ont dit, oui, mais tu sais, ici c'est bien, ça fera une belle publicité pour l'école et puis tu viendras quand tu veux, il y a des chefs de chant qui
ça
te permettront d'apprendre des rôles.
Ça leur servait à eux plutôt que vous servir à vous.
Et on m'a dit, et puis on va te payer pendant un an. Bon, bah, j'ai dit, bon, bah, d'accord. Et voilà. Et donc, je suis venu, sauf que j'étais en carrière, donc je n'avais pas le temps de venir à l'opéra. Donc, lorsque je venais à l'opéra, le peu de temps que j'ai passé à l'opéra, j'échangeais tous les cours de solfège, de maintien, de gymnastique, de langue, etc. J'échangeais avec les élèves. Je leur demandais qui a cours avec Simone Féjard. Simone Féjard, c'était le chef de chant. C'est-à-dire, le chef de chant, ce n'est pas quelqu'un qui vous apprend la technique, c'est quelqu'un qui vous apprend les rôles.
D'accord.
Et c'est ça qui m'intéressait, moi.
Et c'est elle que vous vouliez rencontrer.
Voilà, je voulais rencontrer. Donc, je venais une journée et je passais ma journée avec Simone Féjard, puisque j'échangeais tous mes cours avec les autres élèves, qui étaient Nathalie Dessay, Béatrice Aurien-Monzon. J'attendais tout le monde sur la porte d'entrée d'Opéra Comique. Je demandais à chacun, à quelle heure avez-vous...
Et vous récupériez chaque fois les cours des autres.
Tous les cours.
Simone Féjard, vous dites qu'elle apprenait en fait à... incarner un personnage, à tenir un rôle.
Et surtout à l'apprendre, le mémoriser, puisqu'elle avait des trucs pour l'apprendre.
Elle avait des techniques particulières.
Oui, elle disait, voilà, là, écoute cet accord, là, ça va te donner la note pour ça, là, regarde cette phrase, etc. Voilà, donc avec elle, j'ai appris à prendre des rôles très, très rapidement. Et c'est vrai que j'ai peut-être passé 15 jours dans cette école, et en 15 jours, j'ai appris 8 rôles d'opéra.
Incroyable. Voilà. Mais aujourd'hui, les rôles, vous les apprenez toujours seuls?
Oui, en fait, j'ai travaillé ensuite avec Simone Féjard, qui était déjà âgée à l'époque. Hein. Elle est décédée, elle avait 101 ans. Et voilà, et donc j'ai travaillé avec elle quelques années. Et ensuite, quand elle était trop âgée et que je n'avais plus le temps de la voir, j'ai continué à aller la voir par amitié.
Ouais.
Mais je n'ai plus jamais travaillé avec quelqu'un d'autre.
Avec quelqu'un d'autre.
Non, parce que
une sorte de fidélité.
Voilà, c'était ma fidélité avec Simone Féjard. Et donc ensuite, j'ai travaillé seul toutes ces années.
Alors, je reste sur cette période-là. Donc, la période où vous étiez théoriquement élève de l'école de l'opéra, mais bon, invisible parce que voilà, mais sonore quand même.
Non, ce qui était formidable, excusez-moi, je vous coupe, c'est que à la fin de l'année, Michel Sénéchal, qui était directeur du théâtre, m'a dit bon, écoute Roberto, on va arrêter parce que on va considérer que tes études sont terminées. C'était drôle.
Et ben à cette époque-là, on vous a demandé de tester l'acoustique de l'opéra Bastille avant son ouverture. On a tenu compte de votre avis.
Enfin, c'est pas vraiment tout à fait ça.
Comment ça s'est passé ?
Il y avait l'ouverture de la Bastille, puisqu'elle était encore en construction à l'époque, et on devait faire un grand concert d'ouverture où il y avait tout le monde, Placido Domingo, tous les chanteurs qui venaient chanter. Et donc, on avait pris quelques élèves de l'école de l'opéra pour tester l'acoustique. Oui, c'est-à-dire qu'on ne nous demandait pas notre avis, on nous demandait de chanter,
et eux
voyaient à peu près ce que ça donnait.
Mais alors, vous allez me dire si c'est vrai. Il paraît qu'à Paris, la pire acoustique qui existe pour un chanteur lyrique est celle du Palais Garnier.
Elle est très dure.
Mais elle oblige à chanter avec une autre technique.
Non, pas du tout. En fait, c'est parce qu'elle a été dénaturée. Parce qu'il y a des proportions. Vous savez, quand Garnier a fait cet opéra, il y avait des proportions par rapport à la fosse d'orchestre, par rapport aux matériaux qu'ils utilisaient dans la salle, etc.
Et depuis, on a changé ça.
On a agrandi la fosse d'orchestre, on a changé le bois est devenu, du velours. Et donc, on a, martyrisé un petit peu l'acoustique.
Si le bois devient du velours, ça veut dire qu'on matifie le son qui est projeté.
Et donc, j'espère qu'on va un jour retrouver la qualité de ce théâtre, parce que la dernière fois que j'y ai chanté, l'acoustique n'est pas mauvaise à 100%, mais elle n'est pas si flatteuse que ça. Elle est difficile pour celui qui chante sur scène.
D'accord. Alors, autre surprise, j'ai appris, Roberto Alagna, que par exemple, vous n'aimiez pas chanter à Madrid à cause de son climat. Qu'est-ce que l'air de Madrid fait donc à vos cordes vocales ?
En fait, c'est très sec. Ça manque d'humidité. Et donc, ça dessèche, c'est pas mes cordes vocales. Moi, j'ai un problème au sinus. Donc, j'ai été opéré deux fois des sinus. Parce que j'avais une sorte de kyste bénin qui grossissait dans mes sinus et il a fallu l'opérer deux fois. Donc j'ai les sinus très fragiles et s'ils ne sont pas humidifiés, ça dessèche la voix et c'est ça qui crée ensuite des chats dans la gorge, des problèmes de vibration. Voilà. Et donc à Madrid, c'est très très sec. Et lorsque je chante sur scène, ma voix se dessèche. Voilà, c'est le problème que j'ai à Madrid.
Bon, alors on continue de dérouler le fil de votre histoire. Votre première proposition de contrat, vous est venue du Metropolitan Opera de New York. Mm-hmm. Vous veniez de remporter le concours Pavarotti. Vous aviez 25...
Non, c'était pas encore remporté, pendant le concours.
Ah, c'était pendant le concours, alors c'est encore mieux. et l'Opéra de New York, donc, c'était l'année de vos 25 ans, c'est ça ?
Oui, c'était même un peu avant, je crois.
24
J'avais 24, oui. J'avais pas encore 24 ans. J'avais pas encore 24 ans, en fait.
Et la direction, donc, de l'Opéra de New York vous propose le rôle du ténor italien dans Le Chevalier à la Rose.
En fait, on faisait le concours, j'étais à Philadelphie.
Oui.
Et un agent est venu, m'a entendu pendant le concours.
Oui.
Et il a dû en parler au Metropolitan. Et donc, j'ai reçu une proposition de contrat pour chanter Le Chevalier à la Rose, l'air du ténor italien.
Alors, c'est miraculeux, quand même, de débuter ainsi sur la scène du maître du Metropolitan Opera de New York, sauf que vous n'avez pas osé signer cette proposition.
Non, je me trouvais trop jeune. J'ai toujours douté et j'étais très timide et je me suis dit c'est trop tôt, je suis trop jeune pour démarrer au Metropolitan à 24 ans, même pas, je crois que j'avais 23 ans à l'époque. Et donc j'ai pas pris le risque.
Quel est dans le monde le public le plus connaisseur, le plus exigeant, tout en étant chaleureux ?
Oh, c'est un peu partout le même public. Vous savez, à une certaine époque, les chanteurs chantaient chez eux, dans leur théâtre, dans leur ville, et le public venait voir le chanteur. Aujourd'hui, le public se déplace, et les chanteurs aussi. Donc, c'est à peu près toujours le même public qui tourne, même s'il y a le public maison. Mais c'est toujours le même qui tourne un peu partout. Donc, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un public, par exemple, au Japon, ils sont très friands des stars, ils sont exubérants, ils le montrent, ils viennent comme ça facilement au théâtre. Et donc, ils sont très chaleureux avec les artistes. Après, il y a des publics un peu qui se disent connaisseurs, et souvent, c'est un groupuscule qui, au contraire, nuit plutôt au bon fonctionnement des choses.
Justement, les puristes, on va les appeler comme ça, souvent ne supportent pas qu'on applaudisse pendant la représentation d'un opéra. Mais Verdi, par exemple, Puccini, adorait qu'on applaudisse. Vous-même, vous dites que applaudir après un grand air, ça décuplait les forces et la virtuosité du chanteur,
Bien sûr. Si les compositeurs ont prévu un accord qui appelle l'applaudissement, c'est pour quelque chose, puisque à l'époque, c'est ce qui leur permettait d'avoir du succès. Et donc ensuite, on reprenait l'ouvrage plusieurs représentations. S'il n'y avait pas d'applaudissements, l'ouvrage périssait.
Alors pourquoi ces faux codes défendus par les puristes?
Vous savez, c'est un petit peu une religion, et puis il y a quelques groupuscules qui commencent à dire qu'il ne faut pas applaudir, et en fait c'est ridicule.
C'est ridicule.
Bien sûr, parce que justement le spectacle c'est vivant, et il y a une sorte d'interaction avec le public, c'est ce qui nous manque actuellement. On a besoin de sentir les palpitations, le frémissement du public, c'est ce qui décuple nos forces, c'est le baromètre de la soirée.
Bien sûr.
D'ailleurs, Louis Jouvet disait toujours, quand un spectacle s'était bien passé, ce soir le public avait un grand talent. Oui, il avait raison.
On va rester sur cette phrase de Jouvet, et on retrouve tout de suite Roberto Alagna.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Il est l'un des plus grands ténors au monde. Son nouvel album a pour titre Le Chanteur et rend hommage en fait au patrimoine de la chanson française qui, mais oui, comme l'opéra, la chanson sicilienne, napolitaine est si chère à son cœur. Je reçois Roberto Alagna. Roberto Alagna, plus de 13 ans se sont écoulés depuis ce moment où Luciano Pavarotti, sur son lit d'hôpital, vous a soufflé à l'oreille ces derniers mots. Ne te perds pas, étranger, et souviens-toi des trois notes. Alors, souviens-toi des trois notes, c'est vraiment une formule magnétique, comme une énigme, une formule magique. Vous l'avez résolue, cette énigme?
Oui, c'est le secret, en fait. On en a parlé au début d'émission, c'est ces fameuses trois notes de passage, mi, fa, sol. Voilà, souviens-toi de ces trois notes, ça veut dire, oublie pas de couvrir ces trois notes à la perfection.
Qui permettent de passer du baryton au ténor.
Voilà. Donc c'est ça, le secret. Parce que lui, il les avait travaillés énormément, mais je crois que personne n'a maîtrisé ces trois notes comme lui.
Roberto Alagna, Pavarotti donnait des masterclass. Vous, vous avez toujours refusé, argumentant que enseigner l'émission vocale, ça risquait plus de nuire à une très jeune voix que de l'épanouir. En fait, un chanteur est programmé par la nature, il ne doit pas être programmé par un professeur, c'est ça?
En fait,
chanter, ça relève d'une alchimie intime, même pour un chanteur d'opéra.
C'est un petit peu plus subtil que ça. En fait, on peut être coaché par quelqu'un, comme dans le sport, quelqu'un qui vous donne envie, qui vous donne la force de vous dépasser, qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui vous motive. Mais l'émission vocale, c'est-à-dire celle de votre instrument, celle-ci, il faut aller la chercher soi-même. Il faut méditer pour aller trouver ce que la nature nous a donné. Ça, c'est difficile à faire. Vous savez, un jour, je parlais avec la grande soprano Mireille Lafreni. Et elle me disait qu'elle était très jeune, elle était avec son professeur. Et à un moment, son professeur lui a dit « Voilà, ça, c'est le son parfait. » Elle avait fait une note formidable. Et son professeur lui avait dit que c'était parfait. Donc, c'était parfait pour lui, ce qu'il entendait. Et elle m'a dit qu'elle avait été très choquée parce qu'elle avait eu mal à la gorge en faisant ce son. Vous voyez comme quoi ça peut être parfait, ça semble parfait. Mais quelque chose ne va pas, puisqu'elle s'était fait mal dans la gorge.
Quel est le rôle qui vous a porté au bout de vous-même et à transcender vos limites, Roberto Alagna?
Tous. Là c'est le dernier, c'est
Lohengrin. Des préférences, forcément, Lohengrin.
Lohengrin, le dernier, parce qu'il a fallu que j'aille dans un monde que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais en tant qu'auditeur, mais que je ne connaissais pas dans ma peau, dans ma gorge, dans mes pas, dans mes gestes. Voilà. Et là, il a fallu que je rentre dans ce monde et j'ai adoré parce que c'est un monde que j'ai toujours admiré, que j'ai toujours... j'étais fasciné par la musique de Wagner. Et là, de me retrouver partie intégrante et élément primordial de cette œuvre, ça m'a amené vers d'autres sensations comme ça que je ne connaissais pas. Et je dois dire que j'ai adoré.
On ne peut pas chanter vraiment, on va dire, de façon totalement épanoui du Wagner à 22, 23, 24 ans. Il faut une maturité de la voix.
Non. Moi, je suis contre ça. Moi, je dis toujours qu'il faut chanter les choses quand on a envie et quand on le sent.
Alors, Roberto Alagna, pendant de nombreuses années, vous avez refusé de chanter à la Scala de Milan où, en 2006, au cours d'une représentation d'Aïda, une cabale avait été montée pour que quelques spectateurs vous sifflent. Le public est, on le sait, incroyablement versatile à la Scala. Et à vos débuts, d'ailleurs, ça c'est absolument incroyable, le chef de la claque, sorte de colosse à mine patibulaire, était venu vous trouver dans votre loge pour vous expliquer les tarifs qu'il fallait lui payer pour être applaudi.
Oui, donc, c'était comme ça à l'époque.
Mais c'est dingue, je voudrais savoir si ces méthodes mafieuses existent toujours aujourd'hui.
moins, d'ailleurs on le sent aux applaudissements, ils sont moins nourris qu'à l'époque, quand on entend les enregistrements des grands chanteurs de l'époque où ça hurle.
Parce que certains payaient pour siffler en fait, des concurrents, voilà. On payait aussi pour être applaudi.
On payait une claque. Aujourd'hui encore, ça se passe. Et j'ai vu dernièrement dans un théâtre que je ne vais pas citer, on nous remettait des flyers, vous savez, en disant « après l'ère du ténor, demandez le bis ». Vous voyez, ça, c'est pareil, c'est une sorte de claque.
Incroyable.
Donc voilà, c'est incroyable. Bien sûr, ça existe encore. Mais aujourd'hui, on n'est plus obligé de payer. Mais ça faisait partie du théâtre. Hein, vous savez, ça existait depuis Néron. Et il y a encore des théâtres où on le fait, où ça se pratique. Oui.
Maria Callas a été plusieurs fois victime de ce genre de méthode au cours de sa carrière.
Victime, pas seulement victime, parce qu'on l'applaudissait aussi. Elle payait aussi pour qu'on l'applaudisse. Donc elle donnait des sommes astronomiques aussi. Hein.
Mais il paraît que vous êtes le seul, et c'est le fils justement du chef de la claque qui m'a rapporté ça. Vous êtes le seul ténor au monde qui a refusé à l'Escalade Milan de payer justement pour être applaudi.
J'ai même refusé d'être applaudi puisque je leur ai dit non, n'applaudissez pas. Voilà. Mais c'était peut-être mon côté aussi timide. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait dans cette pratique. Donc j'étais gêné et à chaque fois, donc, quand les applaudissements arrivaient, comme je savais qu'il y avait ça, donc je rentrais aussitôt. Je sortais, on m'applaudissait et je rentrais à nouveau derrière le rideau. Et lui venait me trouver, Tonino, il s'appelait, il me disait ouais. « Mais reste un peu plus, on va te faire un bel applaudissement. » Et je disais « Non, je ne veux pas de cette pratique. » Voilà. Et donc j'ai toujours refusé et c'est son fils qui m'a dit ça. Il m'a dit « Tu es un des seuls qui a refusé. » Mais mon père t'aimait beaucoup.
Alors Roberto Alagna, j'ai lu que Le Monde Lyrique, vous avez tourné le dos après cette cabale à
Le Monde Lyrique, quelques individus. Mais c'était des individus qui attendaient ça depuis longtemps, puisque vous savez que j'étais déjà en carrière depuis longtemps, on prédisait toujours ma fin, et donc ces gens-là, on adore ça, mais ça continue encore aujourd'hui. À chaque rôle, on prédit ma fin, et vous voyez là, c'était pareil dans Lohengrin. Il y a des gens qui s'acharnent comme ça, parce que c'est humain, ce côté, vous voyez, je savais qu'ils ne pourraient pas chanter ça. Alors quand vous le faites ensuite, vous les mettez en porte-à-faux. Donc voilà, c'est un petit peu ça.
Vous les avez très rapidement mis justement en porte-à-faux parce que très peu de temps après cette cabale à la Scala de Milan, le directeur du Metropolitan Opera de New York vous demande de reprendre, mais alors au pied levé, le rôle de Pinkerton, donc dans Madame Butterfly, moins de 5 jours pour apprendre le rôle, moins de 5 jours. Et dans la foulée, il vous demande également de reprendre aussi Roméo et Juliette, dont la première devait être diffusée dans des cinémas du monde entier. Ouais. Alors, ça s'est divinement passé, vous étiez sur un petit nuage, mais le plus fou de tout ça, c'est que, et là vous allez vraiment nous le raconter, Fujoa, le directeur du Metropolitan Opera de New York, vous appelle alors que vous baladez comme ça dans New York, du côté du quartier de Little Italy, où habitait votre arrière-grand-père, et il vous dit, il vous fait une proposition que vous allez nous expliquer, et sa proposition se termine par « c'est pour ce soir, c'est pour tout à l'heure, Roberto, t'as un quart d'heure pour réfléchir, c'est pour tout à l'heure ».
Ouais, en fait ça a été une année assez incroyable puisque c'était les débuts de Peter Gelb à l'opéra du Metropolitan en tant que directeur. Et moi je devais chanter André Chénier et ça s'est annulé et transformé en Butterfly. Et juste après l'épisode de la Scala, donc je me suis dit, c'est peut-être à cause de ça, à cause de l'épisode de la Scala, il m'a retiré le rôle de Chénier. Et en fait, non, c'est parce que c'était pour des histoires de budget, c'était une nouvelle production de Minghella qui était très importante. D'ailleurs, il la redonne souvent, cette production de Butterfly. Alors moi, j'ai dit, moi, je veux bien faire Pinkerton, mais je ne l'ai jamais chanté. Je ne vais pas avoir le temps, j'aurai juste 5 jours pour le préparer. Il m'a dit, oui, mais ce n'est pas grave, on sera avec toi, on te supportera, etc., on t'aidera. Bon, j'ai dit d'accord, je vais accepter, mais quand même de passer de André Chénier, qui était le rôle, disons, très très fameux du ténor protagoniste, et là je me retrouvais un petit peu dans un rôle de vilain, le méchant de l'œuvre, donc et je me disais, bon, c'est quand même bizarre. Mais heureusement, mon instinct m'a dit d'accepter, et je l'ai fait. Et d'ailleurs, Peter Gelb ensuite m'a remercié d'une façon époustouflante, puisqu'il me l'a reproposé plusieurs fois, ensuite je l'ai rechanté et j'ai adoré chanter ce rôle et d'ailleurs maintenant je le chante souvent. Je viens de le reprendre avec mon épouse à Munich, voilà, donc c'est un rôle que j'aime beaucoup. Et dans la foulée,
Et Juliette vient de se greffer à ça.
Oui, puisque c'était mon ami Rolando Villazone qui devait chanter le rôle avec Anna Netrebko. C'était la première fois qu'on faisait les streamings au cinéma. Et Rolando, qui était malade, n'a pas pu chanter le rôle. Donc il m'a demandé, tu pourrais chanter. En fait, c'est Anna Netrebko qui lui a dit, on devrait prendre Roberto, qui lui est un Roméo formidable. On devrait prendre Roberto, au moins on sera sûr d'avoir un bon résultat pour le cinéma. Donc on me l'a proposé et pareil, sans répétition, je suis arrivé comme ça directement à la générale.
Et sans répétition, mais diffusé dans le monde entier.
Diffusé dans le monde entier. Donc j'ai fait la générale qu'on a filmé et ensuite tout de suite le streaming, 3 jours plus tard. Et alors, dans la foulée.
Et dans la foulée, parce que tout ça, ça se déroule dans la même semaine.
Dans la même semaine. Et dans la foulée, donc il y a un ténor qui tombe malade pour Aïda. C'était le rôle qui m'avait porté malheur à la Scala.
Oui.
Et il me dit voilà, il y a ton collègue qui est malade, est-ce que tu voudrais chanter Aïda ? Je dis, c'est une blague. Après l'histoire d'Ascala, il me dit, non, c'est pas une blague. Est-ce que tu te sens ? Je dis, écoute, je vais prendre une partition, je vais aller à Central Park. C'est pour quand ? Il m'a dit, c'est pour ce soir. Oh là, d'accord. Donc, ils m'ont envoyé la partition. Je suis allé dans Central Park, réviser mon rôle.
Non, mais vous restez quoi ? 3-4 heures ?
Oui, 3-4 heures avant d'aller. Et d'ailleurs, c'est ce qui était curieux, c'est que les costumes, donc je n'avais pas fait de costume. C'est moi-même qui ai adapté le costume. Je me suis fait un costume où j'étais à moitié nu. J'ai fait un montage de tout ce qu'ils avaient. Et donc, et dans la soirée, je chantais aussi le Radames, donc le rôle dans Aïda.
Ça veut dire qu'on peut tout vous demander, surtout l'impossible.
Enfin, ça a été une semaine assez incroyable. Et c'est vrai qu'ensuite, Peter Gelb, qui me fait confiance énormément, m'a proposé souvent de sauver la soirée. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et même la dernière fois, c'était dans un rôle très, très important et très difficile pour le ténor, qui est Manon Lescaut, où j'ai appris de tout le rôle en quasiment 10 jours.
Incroyable. On retrouve tout de suite Roberto Alagna.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Roberto Alagna, une vie de défi permanent qui vous pousse à chaque représentation à tutoyer les étoiles. Bon, c'est exaltant, c'est romanesque, ça pousse à la transcendance, mais ne vivre que dans la performance, ça doit quand même être oppressant à la longue. Quelle est la part réelle entre le plaisir et l'obligation d'excellence ?
Oui, c'est difficile à gérer, en fait, puisque c'est vrai que c'est un mélange de bonheur et de souffrance en même temps. Puisqu'il y a les difficultés, il y a les soirées où on est moins bien. Et vous savez, comme disait Caruso, on est en forme 2 soirs par an et ces soirs-là, on ne chante pas.
Voilà.
Et c'est vrai, c'est très rare d'être vraiment en forme. Et même quand vous êtes en forme, c'est là que les soucis peuvent arriver. Souvent, il m'est arrivé, de me sentir vraiment en pleine forme. Et ensuite, au deuxième acte, il se passe quelque chose et hop, la voix ne va plus. Et il faut quand même assurer quand même le spectacle. Et voilà, donc c'est un mélange de mais en même temps il y a un bonheur à la fin, une fois qu'on a réussi, parce que c'est un challenge à chaque fois, c'est aller chercher des ressources au fond de soi-même, de nerveuse, de mental. Il faut aller très très loin
à la fois mental et physique.
Oui, et c'est de plus en plus dur. On croit tout le temps que le track c'est quand on est jeune, mais non, plus on avance et plus on avance en popularité,
plus on a à perdre
et plus il y a à perdre et plus de difficultés ça arrive. Et voilà, donc c'est un métier qui de grandes difficultés, mais en même temps c'est un bonheur qu'on ne peut pas expliquer, il faut le vivre.
Mais par exemple, chanter en plein air comme à Orange, vous avez chaque été pendant tant d'années chanté devant le mur millénaire justement de cet endroit magique, malgré le mistral, malgré la poussière. Ça c'est quand même un défi très très particulier.
Oui, parce qu'il y a un côté mystique à Orange. Moi c'est ce qui m'a attiré. Je sentais les vibrations de ces pierres, de l'histoire. Il y avait quelque chose qui m'apportait énormément, qui apportait à mon âme. Voilà, je ressentais quelque chose vraiment de mystique dans cet endroit. Donc j'ai adoré et en même temps, c'était mon baromètre. Puisque moi, je ne prenais pas de vacances. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'avais peur un petit peu de la réalité. Donc je me sentais bien sur scène et la vie, la vraie vie me faisait peur. Donc, je ne prenais pas de vacances. C'était mes vacances, Orange. Je louais une maison, j'emmenais toute la famille avec moi. Eux passaient leurs vacances là, et moi, je travaillais en même temps.
Alors, cet été, Roberto Alagna, vous avez vécu une expérience inédite, j'ai envie de dire presque surréaliste. En tout cas, c'était en plein air comme Orange. Oui. Perché sur une terrasse surplombant de 400 mètres, la Méditerranée, vous avez donné, donc, entre ciel et mer, un concert avec votre épouse, Alexandra Kurzak. Un concert qui était une commande du Metropolitan Opera de New York pour une diffusion en live, exclusivement sur Internet, puis sur le site de l'Opéra. Alors, côté technique, c'était irréel parce que les caméras étaient reliées par satellite à un studio new-yorkais. Mais à vivre sans aucun public présent, et dans un lieu qui n'est pas fait pour le chant. Ça a été quel genre d'expérience ?
Ah oui, ça, c'était encore plus dur qu'Orange, mais c'est beaucoup plus dur, parce que le lieu était magnifique à voir. Les images sont stupéfiantes, elles coupent le souffle de beauté. Mais c'était difficile parce que là, c'était très humide. Et donc, les instruments qui étaient des instruments à cordes, on avait un quintet, se désaccordaient.
Oh
complètement. Mais c'était d'une difficulté. Lorsqu'on a fait la générale la veille, moi je me suis dit, mais on ne pourra jamais le faire. Les voix se grippaient, c'était difficile, on ne s'entendait pas, il n'y avait pas du tout d'acoustique, complètement sans acoustique. D'ailleurs, nous sommes les seuls à avoir fait ce concert en plein air. Tous les autres ont choisi des endroits, des églises, des endroits où il y avait de l'acoustique, au contraire, en abondance.
Ouais.
Et nous, on a relevé ce défi. Alors, c'est magnifique à voir, mais c'était vraiment un tour de force. Mais je dois dire que je ne le regrette pas, parce que là aussi, il a fallu puiser dans les forces et aller chercher des ressources au fond de soi, vraiment, vraiment, très, très, très profondément. Mais c'est magnifique à voir et ça a eu un gros succès. Le Metropolitan était content et nous aussi.
Alors, ce genre d'expérience va se multiplier dans le monde lyrique, vu la fermeture des opéras en raison du confinement ?
J'espère que non. J'espère que non, parce que il faut que ça reste un événement dû à cette pandémie. Mais il faudrait pas que ça devienne une habitude, parce que qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Les gens vont perdre l'habitude d'aller au théâtre, d'écouter un spectacle en live. Rien ne remplace le live. Rien ne remplace le contact avec le public. Rien ne remplace le vrai théâtre.
Parce que cette période de confinement, en fait, elle est tragique à la fois pour les jeunes artistes lyriques qui débutent leur carrière, et puis pour ceux qui sont en fin de carrière. Bon, les stars comme vous, Roberto Alagna, sont sollicités par les opéras pour des concerts en live sur le net, mais il y a beaucoup de jeunes ou d'anciens ténors qui risquent peut-être de changer de vie, parce que les déprogrammations et les reprogrammations à l'opéra, ça se fait sur 4 ou 5 ans.
Oui, et c'est très difficile pour tout le monde, même pour des gens comme moi, parce qu'on se dit, oui, voilà, lui, il est connu, donc il a quand même du travail. C'est vrai, j'ai du travail. Mais quand vous passez un mois de répétition, donc vous avez bien sûr vos frais à payer, et qu'ensuite toutes les représentations sont annulées et que vous avez juste un streaming, donc vous êtes payé pour ce soir-là, vous n'avez pas assez de ce cachet pour payer tous les frais que vous avez eus pendant un mois à l'hôtel ou dans un appartement. Et voilà, donc c'est difficile pour tout le monde.
On retrouve tout de suite Roberto.
Mais il y a pire que nous, hein, parce que moi je parlais aussi avec des gens de ma famille qui sont en taxi aujourd'hui et qui ont des problèmes aussi, voilà, parce qu'ils n'ont pas de boulot et qui font des recettes vraiment minimes et qui vraiment ont des difficultés actuellement. Je crois que c'est dans toutes les professions.
C'est pour ça que cette année 2021 a une sacrée mission, n'est-ce pas ?
Oui, mais il faut être en même temps réaliste. Je pense qu'il n'y aura pas le coup de baguette magique. Je crois que 2021 va être difficile aussi, et peut-être 2022 aussi. Donc il faut bien sûr rester positif, mais réaliste. Et donc il va falloir essayer de trouver des solutions pour pouvoir survivre tous dans toutes les corporations.
On retrouve tout de suite Roberto Alagna.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Cet après-midi, on chemine en compagnie d'un des plus grands ténors au monde, Roberto Alagna, qui nous offre d'ailleurs en ce début d'année un album qui est un hommage en fait aux chansons françaises chères à son cœur, album qui a pour titre Le Chanteur, et c'est bien lui, Le Chanteur. Alors Roberto Alagna, j'ai appris que vous travaillez en ce moment sur un projet absolument hors norme qui va en surprendre plus d'un. Après Robert De Niro dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, eh bien ce sera à votre tour, Roberto Alagna, en 2022, d'incarner le redoutable chef de la mafia de Chicago, Al Capone, dans une comédie musicale ambitieuse, écrite et composée par Jean-Félix Lalanne. Alors on vous attendait pas dans un rôle, j'ai presque envie de dire, aussi hollywoodien.
Oui, oui. Écoutez, moi je suis curieux. On m'a souvent proposé des comédies musicales, mais mon planning faisait que je refusais tout le temps. Obispo était venu me proposer les 10 commandements. J'ai reçu des tas d'offres de comédies musicales. Le problème, c'est que je me souviens avec Pascal, il m'avait dit, voilà, ça va être super. Je lui avais chanté la chanson, on l'avait déchiffré ensemble, il était ravi. Et ensuite, il m'a dit, montre-moi ton planning, il me faudrait 6 mois ici, 6 mois là. Je lui ai montré mon planning qui était pris 5 ou 6 ans à l'avance. Je lui ai dit, regarde, on ne pourra jamais trouver les 6 mois. Là, aujourd'hui, on est dans une configuration
particulière,
puisque je vais vraiment me consacrer à ça pendant quelques mois. Donc, j'ai promis à Jean-Félix Lalanne, je lui ai dit, voilà, le projet me plaît, les chansons me plaisent, la musique aussi, l'histoire, le livret, tout est sympathique, le casting, etc. Donc, je vais vraiment me plonger là-dedans et on va essayer de faire, pour une fois, une vraie comédie musicale où je vais m'impliquer en tant que chanteur de comédie musicale.
Mais qui sera produite, on va dire, dans le premier semestre 2022 ou plutôt dans le deuxième qu'on est,
Les deux, puisqu'il y a déjà 150 dates de prévues, donc ça veut dire quasiment presque toute mon année. Donc, il va falloir que je mette un petit peu de côté l'opéra pour pouvoir faire ça. Mais je suis tellement emballé par le projet que je vais le faire. Je vais le faire parce qu'aujourd'hui, ben, je peux me permettre. J'ai chanté beaucoup d'opéras. Voilà, le moment est propice à
voilà.
ça.
Voilà. Mais les 150 dates, c'est sur une grande scène parisienne ou ce sera une tournée, par exemple,
des Zéniths ? Ce qui est prévu, c'est le Palais des Sports.
Donc, il y a
une centaine de dates, je crois, prévues au Palais des Sports. Et ensuite, une tournée dans les pays limitrophes, comme la Belgique, la Suisse et puis la province, bien sûr.
Alors, vous êtes en train de faire le casting idéal, vous pensez à ça, parce que face à Al Capone, il y a quand même Elliot Ness, l'inspecteur.
Oui, alors ça, on va l'annoncer très, très bientôt, mais c'est, je vous assure que c'est une pointure. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai choisi. Il fallait quelqu'un au visage émacié comme ça.
Ouais.
Et voilà, donc moi, j'ai choisi Bruno Pelletier.
Voilà. Wow,
et on a enregistré le duo et c'est formidable.
Fabuleux chanteur canadien,
voilà.
Extraordinaire.
Et il est formidable, il a ce visage comme ça qui correspond très bien. Ensuite, je ne veux pas dévoiler les autres. J'ai dit à Jean-Félix, voilà, je l'ai déjà annoncé, ce n'est pas trop grave. Il me dit non, parce que voilà, les contrats
vont
être...
Non mais là, ça nous rend impatients. Parce
voilà,
que bon,
impatient.
Roberto Alagna dans Les Incorruptibles et voilà. Face à lui en Elliot Ness, Bruno Pelletier, là vraiment...
Et je vous assure que nous avons enregistré le duo et c'est formidable. Et pour la sœur d'Al Capone, puisque qui a le rôle de Rita et qui a une liaison amoureuse avec son ennemi, avec Elliot Ness. Nous allons faire une audition.
Voilà, comme dans les tragédies grecques.
Voilà, il va y avoir une audition parce qu'on cherche une jeune chanteuse et en même temps donner de la chance à quelqu'un et puis de permettre de découvrir
alors ça,
aussi au grand
public. Alors ça, c'est formidable d'entendre ça sur l'antenne d'Europe 1. Il va y avoir une audition.
Une audition. Et donc
à partir de quand?
Ça, c'est Jean-Félix qui va s'en occuper. Et voilà, les autres chanteurs sont déjà choisis. Je ne peux pas vous les annoncer, mais on les a déjà. Et moi, j'ai déjà enregistré toute ma partie. Vous voyez, le confinement a permis ça aussi. Et maintenant, j'attends avec impatience les arrangements et puis le reste.
Parce qu'en plus de l'histoire hallucinante d'Al Capone, l'époque à laquelle ça se déroule est hyper attractive par ses costumes, ses décors.
Et la musique,
plus que
et la musique.
Chicago sur scène. Et la musique, ça va être Hollywood sur scène.
Oui, parce qu'on aura un big band, il y a des vrais musiciens, la musique est très, très prenante, il y aura vraiment la musique de l'époque, mais aussi une musique très belle, c'est de la pop, mais de qualité.
Bon, 2022 sera votre année, Roberto Alagna, avec Les Incorruptibles. Mais ce qui est magique, finalement, avec la vie d'artiste, c'est qu'elle permet, au niveau de l'incarnation, de magnifiques grands écarts. Parce que vous serez donc Al Capone sur la scène du Palais des Sports, 150 dates en 2022. Mais il y a quelques jours, on est très loin d'Al Capone, on épinglait au revers de votre veste la Légion d'honneur.
Oui.
Donc l'enfant de Sicile qui chantait dans la grotte de Syracuse, est heureux.
Oui, honnêtement, je suis quelqu'un qui, même si bien sûr je remercie, je suis content surtout pour mes parents, mais moi je ne suis pas un fou des décorations.
Bien sûr, mais vous savez ce qu'on dit toujours, la Légion d'honneur, on ne la demande pas, mais on ne la refuse pas.
Voilà, exactement. Donc je le fais pas parce que je respecte la Légion d'honneur, je respecte cette décoration qui est quand même extraordinaire. Donc j'étais déjà chevalier de la Légion d'honneur. Mais ce qui me touche énormément, c'est d'avoir été décoré par tous les présidents depuis Mitterrand.
Oui.
Jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron, le seul avec qui je n'ai rien reçu, c'est Hollande. Voilà, donc c'est le seul, mais Sarkozy m'a décoré aussi, Chirac, Mitterrand, donc j'ai reçu avec tout le monde. Et ça, c'est formidable, c'est quand même une reconnaissance de votre carrière, de ce que vous avez donné au public, du bien que vous avez pu faire aux gens. Parce que vous savez, souvent, on me dit, vous savez, on m'a opéré, et ce qui m'a permis de tenir le coup, c'était d'écouter vos disques. On ne se rend pas compte le bien qu'on peut faire aux gens par la voix, par la musique, et c'est vrai que souvent, ça sauve même des vies.
Eh bien, en attendant Les Incorruptibles en 2022 au Palais des Sports, Roberto Alagna, on a l'album que vous venez donc d'enregistrer, Le Chanteur, et qui est un hommage à ces titres de la variété française si chers à votre cœur. Merci.
Merci.
C'est toujours un bonheur
toujours
de vous recevoir.
C'est toujours un plaisir aussi pour moi et je voudrais vous féliciter parce que vous allez vous chercher vraiment, je ne sais pas comment vous travaillez, mais vraiment, je vous félicite, vous êtes une grande
avec
professionnelle.
Avec cœur, comme vous,
ben
vous
voilà,
chantez.
On sent
avec
la passion
cœur.
Chez vous. Ça me touche énormément.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Dans un instant, on retrouve Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre. Bonjour les garçons.
Bonjour Isabelle. Effectivement, Historiquement Vôtre et nos champions de l'improvisation, c'est juste après les infos.
Il est 16h sur Europe 1.